Une heure en France, Denis Farou, Frédéric Le Tournier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Une heure en France sur France Bleu. Bonjour Denis Farou.
Bonjour Frédéric Le Tournier.
On commence par une douceur aujourd'hui.
Un carré de chocolat à l'heure du Salon du Chocolat qui ouvre à Paris et qui sera bientôt à Lyon. Est-ce que le chocolat est vraiment bon à la santé ou on aime bien se dire ça parce que ça nous arrange? On invite une nutritionniste diététicienne dans Une heure en France. Ensuite, on a piscine.
La piscine Molitor à Paris qui est aussi un lieu d'exposition après avoir connu plusieurs vies depuis son ouverture en 1929. On va découvrir dans la foulée Espero qui initie des demandeurs d'asile et des réfugiés à l'apiculture. Et puis il n'y a pas qu'Halloween. Demain, il y a aussi le nouvel an celte. On va découvrir.
Chocolat, piscine parisienne, Espero et Bretagne. Voilà les ingrédients du jour.
Et on commence avec les infos du jour et c'est Simon de Faucompré.
Bonjour Simon.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Claude Cinquet a été évalué par un psychiatre pendant sa garde à vue.
Oui, cet octogénaire, auteur présumé de l'attaque à la mosquée de Bayonne, qui a fait 2 blessés avant-hier, il est l'objet d'une altération partielle du discernement. C'est pour ça, Margot Steve, que le parquet national antiterroriste a décidé ce matin de ne pas se saisir de l'enquête.
L'attaque de Bayonne n'est donc pas un attentat pour la justice. Selon l'expertise psychiatrique, le tireur, Claude Cinquet, souffre de troubles psychologiques, plus précisément d'une altération partielle du discernement et ou du contrôle de ses actes, selon les mots du procureur. Mais la justice estime qu'il est quand même responsable de ses actes. Il est en ce moment entendu une nouvelle fois par les enquêteurs et il va être présenté à un magistrat cet après-midi à l'issue de sa garde à vue. Une information judiciaire va être ouverte, des chef de tentative d'assassinat, dégradation et destruction aggravée, violence avec usage d'une arme. Le procureur va également demander son placement en détention provisoire. L'enquête reste donc entre les mains du parquet de Bayonne et pas du parquet national antiterroriste qui a décidé de ne pas se saisir du dossier.
Le suspect, ancien candidat du Front National, a parlé d'une vengeance après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris qu'il attribue à des musulmans. Retrouvez ces infos sur francebleu.fr. Les députés se penchent sur l'attaque de la préfecture de police parisienne qui a fait 4 morts au début du mois.
Ouais, dans moins de 2 heures, une commission d'enquête va auditionner le préfet de police de Paris, Didier Lallement, pour pointer d'éventuels dysfonctionnements internes.
Et l'enquête continue. En parallèle, la piste terroriste n'est plus privilégiée alors qu'il est. Un effort exceptionnel au bénéfice des policiers. C'est en tout cas ce que prétend le gouvernement. Il s'engage à leur payer quelques 3,5 millions d'heures supplémentaires d'ici la fin de l'année.
Une première étape, dit-il, le gouvernement. Ça représente un chèque de 50 millions d'euros pour des heures réalisées parfois il y a des années.
14 000 places d'hébergement d'urgence en plus pour aider les sans-abri. À 2 jours de la trêve hivernale, un geste du gouvernement pas encore suffisant d'après les associations qui accompagnent les gens à la rue. Elles rappellent que 612 sans-abri sont morts dehors en 2018. Un tiers des TGV roule dans l'Ouest encore aujourd'hui seulement et ça va aller mieux dès demain, promet la SNCF. Les prévisions de la semaine sont à retrouver sur francebleu.fr. Les craintes d'instabilité grandissent au Liban. Après la démission du Premier ministre Saad Hariri, hier accusé de corruption par des citoyens qui manifestent depuis 2 semaines, une victoire pour eux, ils ont levé des barrages routiers ce matin, mais en parallèle, le ministre de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, parle d'une crise politique qui s'aggrave. Nicolas Balut, bonjour.
Bonjour.
Bon, cette démission, est-ce qu'elle règle vraiment les problèmes des Libanais?
Pas pour le moment, en tout cas. Ça ne résout pas les problèmes du quotidien des Libanais. Au moins 3 heures de coupure d'électricité par jour, pénurie d'eau potable régulière, inflation. La situation économique du pays est catastrophique. Le pays est en récession et le Liban a la 3e dette publique mondiale. Et c'est une taxe sur les appels téléphoniques WhatsApp qui a d'ailleurs juste simplement mis le feu aux poudres. Ça, c'est pour l'économie. Mais les manifestants dénoncent la corruption et demandent un changement de système. Globalement, ce sont les mêmes clans qui sont au pouvoir. C'est toute la classe politique que les manifestants veulent voir démissionner. Ce qu'ils demandent aussi, c'est un changement de système constitutionnel basé sur une répartition des postes en fonction des confessions religieuses. Par ailleurs, le très influent Hezbollah chiite ne souhaitait pas cette démission et il a mis en garde contre le chaos et la guerre civile.
Nicolas Balut, pour éviter que le Liban ne s'enfonce un peu plus dans la crise, Washington a aussi appelé à la reformation urgente d'un nouveau gouvernement.
Ça discute bien entre Fiat Chrysler et le groupe français PSA. Les deux constructeurs automobiles ont confirmé des négociations ce matin en vue d'une fusion.
Ouais, elle donnerait naissance au 4e plus grand nom mondial de l'auto, valorisé à 50 milliards de dollars. Rien que ça, L'État français annonce ce midi qu'il va quand même rester très vigilant quant à la gouvernance de ce nouvel ensemble. 5 Français en lice au tournoi de tennis de Paris-Bercy aujourd'hui, avec notamment un duel franco-français, Gaël Monfils contre Benoît Paire dans 1h30, et le gros défi d'Adrien Manarino qui affronte Raphaël Nadal ce soir. En foot, le tirage du 7e tour de la Coupe de France s'est terminé il y a un quart d'heure. 150 clubs français en lice pour des matchs à la mi-novembre. Vous pouvez retrouver les affiches sur francebleu.fr.
Et la Coupe de la Ligue continue après les victoires de Nîmes et Bordeaux hier soir. La Coupe de la Ligue ce soir avec 8 matchs à l'affiche, dont Monaco-Marseille à 21h.
Et les joueuses lyonnaises jouent de leur côté leur 8e de finale retour de Ligue des Champions face aux Danoises du Fortuna Yuring qu'elles ont battu 4-0 à l'aller. Coup d'envoi 16h30. Une excellente raison pour venir à Paris cette semaine, Denis. Mmh. L'ouverture aujourd'hui du Salon du Chocolat. C'est jusqu'à dimanche et ce même salon sera à Lyon du 9 au 11 novembre.
Je vous vois venir. Vous voudriez que je vous dise, allez-y, mangez du chocolat, c'est bon à la santé.
Allez, dites-moi tout.
On vérifie quand même avec une nutritionniste diététicienne. On va prendre le café avec elle. On verra s'il y a un carré de chocolat à côté.
Oui, c'est plus prudent. La météo, c'est gris et maussade au nord-ouest. Une nouvelle perturbation arrive par la Bretagne, accompagnée de pluies fréquentes. C'est plus agréable et ensoleillé au sud avec un peu d'instabilité quand même qui survit sur la Côte d'Azur et la Corse.
8 degrés à Saint-Dié-des-Vosges cet après-midi. Midi, c'est plutôt frisquet. 9 à Amiens, 13 à Blois où nous étions hier, 13-14 dans les Côtes d'Armor où nous serons tout à l'heure avec le nouvel an celte, 17 au Puy-en-Velay, 20 à Bordeaux, 21 à Montpellier. Merci Simon de Faucompré.
À vous Denis.
FranceBleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.
France Bleu Paris, info, trafic et mobilité en temps réel. Cyril Ardo.
Avec un trafic toujours chargé ce midi, à vous signaler notamment sur le périphérique, en extérieur entre la porte d'Italie et la porte Dorée, et en intérieur entre la porte de Bagnolet et la porte de Bercy. Au sud de Paris, c'est chargé sur la 6B, surtout pour vous qui vous dirigez vers la capitale. Et puis un mot de la 86 avec un trafic chargé en extérieur de Rosny-sous-Bois jusqu'à Fresnes. Et en intérieur, il y a du monde dans le secteur de Thiers, puis de Rosny-sous-Bois. Et enfin, au nord de Paris, toujours sur la 86 intérieure, il y a du monde entre Gennevilliers et Nanterre. Prudence, donc, on fait la route ensemble sur France Bleu Paris. Prochain point trafic dans une demi-heure.
Le Salon mondial du chocolat nous met l'eau à la bouche. Nous sommes avec une nutritionniste diététicienne pour vérifier deux ou trois choses. Bonjour Valérie Espinasse.
Bonjour Denis.
Est-ce que le chocolat est bon à la santé ou bien on véhicule cette idée parce que ça nous arrange un peu ?
Alors, il est à la fois bon pour la santé et à la fois il peut ne pas être bon. Ça dépend lequel, toujours le même problème, la qualité initiale et les additions de sucre qui peuvent y être ajoutées. Si on prend un pur cacao de bonne provenance, c'est un produit excellent pour la santé, puisqu'il contient des antioxydants, du magnésium, il a des théobromines qui nous donnent de l'énergie, donc c'est vraiment un produit de saison, même on pourrait dire, et à la fois, s'il est de moins bonne qualité, additionné de beaucoup de sucre, et bien là on dira qu'il n'est pas bon pour la santé, même si c'est pas le chocolat, mais le produit final qui n'est pas bon parce qu'il est plein de sucre.
Dans les idées qui circulent, on dit qu'il faut acheter du chocolat avec au moins 70% de cacao, vous confirmez ?
Je confirme qu'il faut minimum 70-75%. Les autres constituants de ce chocolat, de ce que l'on nomme chocolat en tout cas, doivent être des matières grasses végétales, idéalement, et avec le moins de sucre possible. Je reviens sur ce sucre.
L'effet du chocolat sur le mental, sur notre humeur, c'est prouvé scientifiquement ou là encore, c'est une idée reçue ?
Non, c'est pas du tout une idée reçue. De par la composition intrinsèque du cacao, puisqu'il contient du magnésium, il est riche en magnésium, beaucoup d'autres oligo-éléments également, mais le magnésium qui aura un effet sur l'énergie, sur la santé mentale. Il est riche également en antioxydants, donc ça prévient la sénescence, le vieillissement cérébral et aussi au niveau de notre organisme. Ça prévient ce qu'on appelle le stress oxydatif. Et il contient également des théobromines qui sont des substances énergisantes et qui aident à ce que l'on sécrète bien nos neuromédiateurs, donc une bonne santé mentale.
Nous mangerions 6,5 kg de chocolat par an. C'est une moyenne, évidemment. Il faut en manger plus pour être en bonne santé.
Écoutez, je ne vais pas dire qu'il faut en manger plus, mais il faut le manger bien. Mmh. Il faut le manger régulièrement et sans excès chaque fois qu'on en mange, c'est-à-dire les deux carrés, les deux à trois carrés de chocolat réglementaire, on va dire ça comme ça, quotidien, c'est acceptable. Une tablette quotidienne, c'est pas acceptable.
Donc,
forcément besoin d'en manger plus, mais en manger régulièrement, un carré de chocolat quand on en a envie, voire quotidiennement, c'est tout à fait acceptable.
Oui, enfin, tout à l'heure, vous avez dit 2 à 3. On retiendra ce chiffre quand même. 2 à 3 carreaux au quotidien.
Ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à 3.
Ah, on peut aller jusqu'à 3.
Ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à 3.
Bon,
voilà. C'est une obligation.
Oui, j'ai bien compris. Le seul petit défaut du chocolat, c'est qu'il est quand même assez calorique.
Écoutez, non, parce que justement, on revient à votre question initiale, ça dépend quel chocolat. Le cacao en lui-même n'est pas une substance très calorique. C'est les additifs qui sont mis dans la préparation chocolat qui vont être dans les graisses qui seront utilisées. Donc, il y a graisse animale et graisse végétale. Ça fait des calories différentes et surtout des incidences différentes et le sucre qui sera additionné. Donc, le cacao en lui-même n'est pas une substance très calorique, même faiblement calorique. C'est vraiment les additions. D'où l'importance de regarder la composition quand on achète un chocolat.
Vous nous avez rassuré ce midi, Valérie Espinasse, nutritionniste et diététicienne, auteure du livre sorti en début d'année « Je perds 3 à 10 kilos en 3 mois » chez Solar Éditions. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Est-ce que vous prenez, vous, vos 2 à 3 carreaux quotidiens de chocolat par jour ?
Non, j'en prends un quand j'en ai envie et je ne prends pas quotidiennement parce que je n'en ressens pas le besoin. Mais quand j'en ai envie, je ne me prive pas.
Merci, bonne journée.
Bonne journée à vous, au revoir.
Le Salon du Chocolat, lui, ouvre aujourd'hui à Paris et est à Lyon du 9 au 11 novembre.
Une heure en France, Denis Farou, Frédéric Le Ternier.
Vous dites carreau de chocolat, vous ?
Je dis comme je veux d'abord. Commencez pas par m'ennuyer.
Moi je dis carré, mais bon, chacun fait comme il veut, vous avez raison.
Ça doit être régional.
Allez, déroulons le menu. Aujourd'hui, nous poussons les portes d'un lieu mythique à Paris, la piscine Molitor dans le 16e arrondissement, qui a eu plusieurs vies et qui fait la part belle au street art aujourd'hui.
Vous dites le street art, vous ?
Oui, je dis le street art.
Sa première vie, c'était avec Johnny Westmuller, le nageur olympique américano-hongrois. Droit devenu Tarzan au cinéma.
Ensuite, nous découvrons l'association Espero qui propose à des demandeurs d'asile et des réfugiés une formation d'apiculture.
Et c'est une formation dispensée en région parisienne par un réfugié syrien arrivé il y a quelques années en France.
Et enfin, à quelques heures d'Halloween, c'est demain soir Halloween, j'espère que vous avez déjà votre déguisement, Denis.
Pas encore, non.
Nous allons nous intéresser au nouvel an celte. Ça s'appelle la fête de Samhain, où il est aussi, vous l'entendrez, question de revenants.
Oui, c'est un moment en dehors du temps où le monde des esprits rencontre celui des vivants. On va expliquer, enfin si on peut expliquer.
Ouais, si c'est explicable. Ça s'appelle, comment vous dites, ça s'appelle Samhain.
Samhain.
Le nouvel an celte. Donc restez avec nous, un sacré programme dans une heure en France. On est ensemble jusqu'à 14h et c'est évidemment sur France Bleu. À tout de suite.
Derrillian Spa had the chess bars in it. All change, don't you know that when you play at this level, there's no ordinary venue. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or this place.
One night in Bangkok, the world's your oyster. The bars are temples, but the pulse ain't free.
reclining Buddha. Thank God I'm only watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors.
One night in Bangkok, the world's your oyster. The bars are temples, but the pools ain't free. You'll find a god in every golden oyster. A little special, little history. I can feel an angel sliding up to me. One night.
Why Night in Bangkok sur France Bleu Murray Head avant d'aller faire un plongeon dans la piscine à 13h16.
Une heure en France, Denis Farrow, Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
Et oui, parce qu'aujourd'hui on voulait vous raconter l'histoire d'un lieu atypique qui a eu plusieurs vies, plusieurs visages. Inaugurée en 1929, la piscine Molitor à Paris a été pensée pour compléter tout d'abord le centre sportif composé du Parc des Princes, du Stade Jean-Bouin et de Roland-Garros. Alors après des décennies où des milliers de Parisiens sont venus s'y détendre et s'y amuser,
éventuellement nager.
Éventuellement aussi. Elle a fermé ses portes en 1989, mais elle a pourtant continué d'évoluer.
Ouais, elle a rouvert ses portes en 2014 et elle propose des visites au public pour notamment contempler des cabines de bain uniques réalisées par des artistes.
Et c'est la directrice artistique de la piscine Molitor qui nous fait la joie d'être avec nous. Bonjour Sylvia Randazzo.
Bonjour.
À son ouverture, je le disais, c'était un événement. Il y avait deux bassins, un bassin d'hiver, un bassin d'été, c'était en 1929. Et puis Johnny Weissmuller, il fut le premier maître nageur le temps d'un été.
Oui, tout à fait. Ça a été inauguré avec Johnny Weissmuller, pardon, qui a été l'un des premiers maîtres nageurs de la piscine Molitor. Et d'ailleurs, la fille de Lucien Paulet, l'architecte de Molitor, a eu la chance d'apprendre à nager en compagnie de Johnny Weissmuller et aussi d'Eileen Riggensoul, qu'il ne faut pas oublier, qui était aussi, elle, nageuse olympique. Alors, et la petite amie de Johnny.
Ah bon, aussi.
Ouais. Ah ouais, c'est une famille, ouais. À l'époque, Johnny était nageur, pas encore oui. Tarzan au cinéma. Hein.
Tout à fait, oui. Il était juste nageur.
Ça a été un haut lieu de la vie parisienne, cette piscine Molitor, pendant des années. Il y avait le gala de l'Union des artistes, un gala nautique. Il y a eu l'apparition du premier bikini, mais qui a fait scandale à ce moment-là.
Effectivement, Molitor, c'était beaucoup plus qu'une piscine, que deux piscines. Des événements s'y organisaient très régulièrement, et notamment les fêtes de l'eau au mois de juillet, avec des défilés de maillots de bain. Donc les créateurs de maillots en profitaient pour dévoiler leur nouvelle collection, avec un jury qui était composé des stars de l'époque, et notamment des stars de la radio. Des femmes du monde entier y venaient, et notamment des starlettes aussi américaines, qui venaient à Molitor pour défiler en maillot. Et donc en 1946, le bikini est montré pour la toute première fois.
Mais
donc,
vous savez, Sylvie, qu'on a une archive de l'INA de l'époque.
Ah, c'est super, vous avez de la chance.
1946.
Ici, on est tout aussi dévêtus, mais ce n'est peut-être pas pour nager, c'est plutôt pour se faire voir. Ces belles filles exhibent des costumes de bain devant un public et un jury qui s'intéressent plus au contenu qu'au contenant.
Oui, alors ça, c'est le vocabulaire de l'époque. Peut-être que le commentateur d'aujourd'hui ne se permettrait pas. Le bikini, tout le monde ne le sait pas, est apparu à Molitor.
Oui. Il a été dévoilé à Molitor, donc il ne faut pas oublier que le bikini, en fait, ce n'est pas du tout un maillot de bain de deux pièces, c'est vraiment quatre triangles de tissu. Donc en 1946, c'était très très osé.
Boris Vian fréquentait les lieux également, il y avait des grands noms qui sont passés par Molitor. Ce qu'on sait moins, c'est que le bassin extérieur devenait une patinoire l'hiver. Ça, c'était dès le départ ou c'est venu après ?
C'est venu après, plutôt dans les années 30, début des années 40. Et ça aussi, on le doit à l'architecte, toujours Lucien Paulet, qui était ingénieur en fait à la base, et pas forcément architecte, mais bon, un ingénieur pour des piscines, c'est assez pratique parce qu'il sait plein de choses.
Ouais.
Et c'est lui qui a trouvé le système justement de la patinoire, un plancher de bois sur le plancher des kilomètres de tuyaux qui parcouraient tout le plancher, de l'ammoniac qui passait dans ces tuyaux. On recouvrait d'eau et en fait l'eau au contact de l'ammoniac gelait.
C'est super, mais ça devait coûter très cher. C'est peut-être pour ça qu'ils ont arrêté.
Oui, effectivement, c'était presque un mois d'installation à chaque fois, pour seulement 3 mois d'exploitation, puisque dès que le temps se radoucissait, ben, là, il paraît que la patinoire fondait et on voyait les tuyaux en transparence, en fait, sous la glace.
Alors, la piscine Molitor a fermé ses portes en 89. En 90, elle a été classée monument historique. Elle a été partiellement détruite et puis elle a été rénovée avec une grande réouverture en 2014.
Mais pourquoi elle a fermé en 89? Elle était devenue insalubre pour la piscine?
Alors tout d'abord, c'était la fin du bail emphytéotique qui liait la mairie de Paris avec la société qui exploitait, qui avait construit les piscines Molitor. Donc un bail emphytéotique de 60 ans à la fin de ce bail, donc en 89, de 29 à 89. Il était question soit de faire des très gros travaux de rénovation, parce que la piscine en fait vieillissait au bout de 60 ans, soit de ne pas renouveler, et donc de renouveler le bail, sinon de ne pas renouveler le bail. Et dans ces cas-là, la mairie de Paris faisait un petit peu ce qu'elle voulait. Et donc le bail n'a pas été renouvelé et les portes de Molitor ont fermé.
Mais c'est là que l'histoire rebondit, parce qu'elle était à l'abandon, cette piscine. Il y a des artistes, des graffeurs qui ont investi ces lieux, alors de façon illégale bien sûr, mais c'est resté gravé dans les murs.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'un bâtiment à Paris n'est jamais véritablement abandonné. Et à cette époque-là, c'était aussi l'arrivée du graffiti à Paris dans les débuts des années 90. Donc plein de petits curieux qui avaient repéré ce bâtiment abandonné. Et l'intérêt de Molitor, c'est qu'une fois que vous êtes à l'intérieur, vous êtes vraiment à l'abri des regards.
Tranquille.
Exactement. Et ils étaient vraiment tranquilles pour le coup.
Donc ils ont graffé, ils ont fait plein de tags. Il y a eu une des plus grosses raves d'Europe qui a été organisée, là aussi évidemment de façon illégale, à la piscine Molitor. On peut dire qu'après être finalement un monument de la société, de la haute société parisienne, c'est devenu un monument de l'underground, la piscine Molitor.
Oui, tout à fait. Et notamment, le 14 avril 2001, donc le jour de cette fameuse rave party qui avait été organisée par les hérétiques, ça a lancé aussi beaucoup plus le mouvement underground à Molitor, connu du coup par des milliers de Parisiens et notamment de cette communauté de graffeurs.
Et les graffeurs qui graffent aujourd'hui sont invités, ils ne sont pas squatteurs.
Oui, ils sont invités.
Oui, parce qu'il y a eu une renaissance, donc comment ça s'est déroulé? Il y a eu un appel à projet pour ouvrir la piscine Molitor à Paris?
La mairie de Paris a lancé en 2008 un appel à projet donc pour Molitor. Mm-hmm. Et c'est ce projet-là, enfin celui qu'on a aujourd'hui, qui a remporté
retenu.
L'appel.
Ouais. Du coup, c'est à la fois un hôtel, un restaurant aujourd'hui, évidemment à nouveau une piscine, il y a des adhésions. Mais ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, vous ouvrez la piscine aux visiteurs pour des cabines de bain. Et ces artistes graffeurs dont on parlait il y a quelques minutes, vous leur avez donné la possibilité de s'exprimer, chacun à travers une cabine de bain.
Oui. Tout à fait. On a appelé en priorité les artistes qui avaient connu Molitor à l'époque, qui avaient déjà fait leurs armes un petit peu dans ce bâtiment, leurs premiers tags. On leur a proposé de revenir à Molitor pour peindre de nouveau des murs dans l'enceinte de l'établissement et aussi des cabines, parce qu'il y avait quand même ce projet des cabines, il y a 78 cabines, donc il fallait bien en faire quelque chose. Et l'idée de la galerie est merveilleuse, parce que ça permet de réunir beaucoup d'artistes, de montrer que l'art urbain est extrêmement riche et très diversifié, et surtout d'accueillir le public.
Et vous êtes directrice artistique de la piscine Molitor, c'est original comme carte de visite, il ne doit pas y en avoir beaucoup des directrices artistiques de piscine en France.
Peut-être à Roubaix, la piscine de Roubaix.
Oui, effectivement, ouais, c'est un petit peu le
bienvenue Frédéric.
Le
style,
ouais. Ce qui est merveilleux, je peux vous le dire honnêtement, moi je l'ai visité du coup avec les graffeurs qui ont fait les cabines, c'est qu'on se balade dans la galerie, autour de la galerie, et il y a des perspectives magnifiques, on ne voit pas les dessins de la même façon, enfin les graphes, les illustrations, et d'ailleurs de ce projet est né un livre qui est sorti aux éditions Harpon, voilà. Donc là, ça s'appelle Vibration Artistique.
Oui, Molitor Vibration Artistique.
Et c'est une double page qui représente chaque cabine. Ça peut être, pourquoi pas, un beau cadeau pour les fêtes de Noël. En tout cas, allez visiter la piscine Molitor. On peut penser que c'est réservé à une élite. Pas forcément.
Non, pas du tout.
Et donc, c'est ouvert pour aller visiter ces cabines, entre autres.
Voilà, on a compris qu'on pouvait se baigner, mais pas seulement. L'histoire pittoresque de la piscine Molitor avec Sylvia Randazzo, directrice artistique de la piscine.
Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite. Et longue vie à Molitor, mais j'ai l'impression qu'elle rebondira encore et encore. Merci beaucoup.
Merci.
Bonne journée. Et nous jouons maintenant pour une clé USB France Bleu. Dites-nous quel rôle a incarné Jenny Weissmuller au cinéma. On en a parlé il y a quelques instants. Est-ce que c'était Robinson Crusoe ou Tarzan? Ouais. C'est pas facile, hein.
Mais pas mal votre question.
Vous nous appelez au 0810 055 056. Et puis vous restez avec nous dans quelques instants. On va découvrir l'association Espero qui propose des formations d'apiculteurs. Et à 13h45, on fête le nouvel an celte sur France Bleu.
Samin.
Ce sera après Clara Luciani.
Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal. Je... J'ai du mal à le croire, c'est moi qui chantais ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Suis-je plus laide ou plus belle que sur la photo de mon disque orange? Suis-je seulement celle, celle dont j'ai l'air? Souvent je change.
Luciani sur France Bleu avec son dernier titre Nu pour accueillir Cathy. Bonjour Cathy, bienvenue.
Bonjour Daniel Frédéric.
Où êtes-vous Cathy?
Alors moi je suis dans la Drôme.
Dans la Drôme, très bien. Où ça dans la Drôme?
À côté de Valence, 10 km de Valence.
Très bien. Et que
à droite ou à gauche de Valence quand on regarde la carte?
C'est dur là.
Bah ouais, ça dépend de quel côté on se met.
Bah, vous êtes du côté du Vercors ou pas?
Côté Vercors, ouais.
Voilà.
Ah, ça y est.
Donc, voilà. C'est sur la droite en regardant la carte.
Merci de ces précisions GPS.
Oui,
Cathy, qu'est-ce que vous faites de beau aujourd'hui?
Aujourd'hui, je vais faire de la couture, là, cet après-midi. Là, je vais finir ma cuisine et puis voilà.
D'accord. De la couture, vous faites quoi? Des vêtements? Vous rapiécez quelque chose?
Oui, je rapièce. Ou là, je vais faire des ourlets cet après-midi.
Ok. Cathy, vous connaissiez l'histoire de cette piscine Molitor à Paris? Ça vous parlait?
Non, ça me disait rien, non.
C'est incroyable, hein, elle a vécu 1000 vies déjà cette piscine.
Ouais.
Cathy, je vous demandais quel rôle a incarné Jenny Weissmuller au cinéma, si c'était Robinson Crusoe ou Tarzan?
Alors c'est Tarzan.
Mais oui. Oula.
Moi j'ai regardé.
Il est fatigué Tarzan aujourd'hui.
Oui.
Alors Cathy, c'est la bonne réponse, on vous envoie une clé USB France Bleu, c'est gagné, c'est pour vous.
Merci bien, merci beaucoup.
Mais de rien, vous faites une grosse bise, Cathy.
Ben moi aussi, grosse bise.
À
bientôt.
Journée.
Bonne journée.
Au revoir, Cathy, au revoir.
France Bleu. France Bleu, partenaire de Olivia, la nouvelle série événements sur TF1. Après La Vengeance aux yeux clairs, Laetitia Milo reprend le rôle d'Olivia Alessandri. Pour Olivia, un seul objectif, défendre les causes perdues et faire que justice soit rendue. Cette semaine, ce sont de lourds secrets de famille qui vont être au cœur des deux affaires qu'elle défend et qu'elle entend bien mener à leur terme. Olivia, avec Laetitia Milo, demain soir sur TF1 à 21h05 avec France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
Un message d'Agathe Le Caron.
Quand on est maman et qu'on anime la maison des maternelles, forcément, on a envie de se mobiliser et de protéger les générations futures. Moi, Agathe, je recycle. J'ai commencé avec les produits de première nécessité, comme mon frigo. On ne réalise pas que notre vieux frigo contient des gaz qui ont 10 000 fois plus d'impact sur le climat que le CO2. Alors autant le dépolluer en France. aucune excuse acceptée. Maintenant, c'est à vous d'agir. Plus d'informations sur écosystème.eco.
Écosystème, recycler, c'est protéger.
FranceBleu.fr. Tout France Bleu, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.
France Bleu Paris, info, trafic et mobilité en temps réel. Cyril Ardo.
Avec un trafic bien chargé à vous signaler sur le périphérique, en intérieur, entre la porte de Bagnolet et la porte de Bercy, d'autant qu'un accident au niveau de la porte de Bercy n'arrange rien à la situation. Et puis en extérieur, entre la porte d'Italie et la porte dorée. Au sud de Paris, c'est chargé sur la 6B, surtout pour vous qui vous dirigez vers la capitale. Et enfin, un mot de la 86 avec un trafic chargé en extérieur de Rosny-sous-Bois jusqu'à Fresnes, en intérieur du Mont dans le secteur de Thiers, puis de Rosny-sous-Bois. Et enfin, au nord de Paris, toujours sur la 86 intérieure, il y a du monde entre Gennevilliers et Nanterre. Prudence, on fait la route ensemble sur France Bleu.
Mylène Farmer sur France Bleu pour vous accompagner jusqu'à 14h dans une heure en France. Il y a encore de beaux sujets à traiter. On va parler d'une association qui forme des réfugiés à l'apiculture. Et puis à 13h45, Denis, si vous êtes d'accord, on va essayer de parler du nouvel encelte. On va peut-être croiser des zombies. Attention.
Pourvu que ça se passe bien.
A bien son tendage, mon Dieu que c'est démodé. Le n'est plus ultra en ce paysage, c'est des mille de côté. Hey, ta majesté jamais ne te déplace sans ton petit oreiller. A jamais je suis ton unique classe, tous mes que prières payées. Tu fais des arts et beaux derrière ton ouvrage, comme un petit pantalon. Debout et de dos sans perdre courage.
Farmer, évidemment, sur France Bleu, c'était pourvu qu'elle soit douce.
Une heure en France, Frédéric Le Tournier, Denis Farou, sur France Bleu.
Des demandeurs d'asile et des réfugiés apprennent l'apiculture en région parisienne grâce à une association, l'association Espero, cofondée par une américaine. Il n'en fallait pas plus pour faire partager cette initiative.
Et c'est un réfugié syrien qui a fui son pays en 2013 qui enseigne l'apiculture et sa connaissance des abeilles.
La directrice et cofondatrice d'Espero est avec nous. Bonjour Maya Perso.
Bonjour.
À première vue, merci. Cette activité proposée nous paraît un peu étrange pour essayer de s'insérer en France. Pourquoi l'apiculture et les abeilles proposées à des réfugiés?
Alors, dans un premier temps, on voulait monter un projet qui avait un volet social et environnemental. Ça peut paraître étrange, mais pour les personnes qui n'ont pas une maîtrise de la langue française, nous sommes un tremplin vers l'insertion socio-professionnelle. Donc, avec nos cours en apiculture qui sont ouverts à tous, hein, on voulait vraiment faire un brassage culturel. Donc, il y a des Français, CPS+, plus, ou des Français éloignés de l'emploi, plus avec les réfugiés et les demandeurs d'asile qui suivent ces formations ensemble à Bobigny. Et l'idée, c'était vraiment de faire mélange entre les nouveaux arrivés et des habitants de Bobigny et autour de l'apiculture, parce que les enjeux sont très assez importants. Si les abeilles disparaissent, un tiers de tout ce qu'on mange disparaîtra.
On va parler du volet écologique, évidemment, Maya Perso, mais du coup, ils sont combien dans ces formations d'apiculture?
Donc 20.
Une vingtaine? Une vingtaine, d'accord. Ouais. Personne n'a peur d'être piqué? Ça se passe bien?
Ça se passe bien. En fait, il y en a un qui n'a jamais vu des abeilles.
Ah bon?
Notamment un Tibétain qui n'avait jamais vu une abeille dans sa vie, qui avait très peur au début. Et puis, on met des arreuses, bien évidemment, la protection. Mm-hmm. Et il est allé sur le terrain où on a à peu près 8 ruches. Et en fait, il a dit que bon, les abeilles sont beaucoup plus gentilles que j'aurais cru. et du coup, il a un CDI dans l'agriculture et il veut monter son projet à
Ah ouais, là. Quand même.
Donc, il a commencé sur...
Ouais. Voilà. On a relevé aussi ce témoignage d'un jeune guinéen de 22 ans qui dit « Au pays, ça fait sourire, ils ne comprennent pas que je fasse de l'apiculture. Chez moi, ils connaissent même pas le mot. » Alors que lui trouve son bonheur. Il paraît, Maya, que le bruit des abeilles, qui peut en effrayer certains, peut être aussi un bruit apaisant.
C'est sûr. Pour moi, j'ai appris le métier avec Ibrahim, le Syrien, donc, qui donne mes cours, depuis 3 ans. Je ne connaissais rien sur les abeilles, mais quand je suis avec eux, c'est vraiment très apaisant. Les abeilles, elles aiment le calme. C'est juste magique d'être autour des ruches, enfin, c'est vraiment très apaisant, moi je trouve, et d'autres personnes trouvent aussi que c'est très apaisant. Le bruit, et puis juste d'être autour des abeilles qui s'envolent.
Qui butinent. Maya Perso, c'était important de donner une formation qui avait justement un volet écologique et des enjeux qu'on peut avoir dans le monde actuel. C'était important, cette notion-là?
C'était vraiment pour moi, enfin pour nous, enfin avec les autres cofondateurs, c'était vraiment primordial. Moi, je suis américaine. Aux États-Unis, il y a des pertes parfois des colonies d'abeilles à 40%. Pour moi, c'est vraiment un enjeu fondamental et on devrait tous agir pour pas que les abeilles disparaissent. Mmh. Il y a aussi le faux miel sur le marché qui tue le métier de l'apiculteur parce que du coup, ils ne peuvent plus concurrencer avec le faux miel qui est vendu à 1,50€ le kilo. Mmh. Donc, il y a des vrais enjeux.
à développer. Et c'est important que ce soit une notion aussi.
En tout cas, on voulait souligner cette initiative née d'une Américaine qui a cofondé Espero, qui reçoit des Soudanais, des Guinéens, des Syriens, avec un réfugié syrien qui enseigne l'apiculture aux demandeurs d'asile et aux réfugiés.
Merci beaucoup, Maya Perso, de nous en avoir parlé aujourd'hui dans Une Heure en France. Merci infiniment.
Merci à vous.
Bonne journée. À bientôt. Au revoir.
Bonne journée. À bientôt. Au revoir.
Et nous jouons maintenant pour une montre France Bleu Sport. Dites-nous environ combien d'espèces d'abeilles sont répertoriées sur la planète. Est-ce que c'est 5000 ou est-ce que c'est 20 000? Environ 5000, environ 20 000 espèces d'abeilles répertoriées sur la planète. La bonne réponse.
Et leur nom, s'il vous plaît.
On va pas forcément avoir le temps. La bonne réponse, 0810 055 056. Restez avec nous. Je crois qu'il est question du nouvel an celte.
Sa main,
exactement. C'est demain soir en même temps qu'Halloween. Peut-être que vous n'avez pas envie de fêter Halloween. Ben vous fêterez le nouvel an celte.
Vous la voyez, celle-là? Sa main.
Fait longtemps qu'il la prépare. Hein. What's up sur France Bleu maintenant dans Une Heure en France. Trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis of times when I'm lying in bed just to get it all out. What's in my head? And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath.
Destination.
What's Up, c'est leur plus gros tube. Ce groupe, Four Non Blondes, c'était sorti en 1993. Et c'est en 1995 que Linda Perry, la chanteuse du groupe, l'a quitté pour commencer une carrière solo. Le groupe est alors dissous. C'était une triste nouvelle. Mais leur plus gros succès, c'était donc What's Up. On était ravis de le réentendre.
Et non pas What's Up.
Non, What's Up. Mmh. Yasmine est là. Bonjour, bienvenue Yasmine.
Bonjour.
Vous êtes bonjour. À Strasbourg, Yasmine.
Oui. Strasbourg, oui.
Formidable. Vous connaissiez ce titre, What's Up?
Non, je ne connaissais pas, non.
D'accord, des années 90. Du coup, les abeilles, à votre avis, Yasmine, il y en a combien d'espèces qui sont répertoriées sur la planète? C'était ma question. Environ 5000 ou environ 20 000?
20
000. Ouais, vous avez dit ça au hasard?
Non, je connais. À peu près, j'hésitais, mais je dis 20 000, c'est plus parce que mon fils, je crois, il a fait un exposé en... Dans TPE, voilà, sur l'abeille, et j'ai appris avec lui.
Quoi. Excellent, l'exposé de votre fils.
Il a quel âge votre fils, Yasmine?
Il est en terminale, il a 17 ans.
D'accord, et donc là, il est en vacances?
Il est en vacances, là, oui, il est en vacances.
Bon, ça recommence lundi. Mais grâce à lui, du coup, une montre France Bleu Sport, on vous l'envoie, Yasmine.
Merci bien, merci.
De rien. Merci de votre gentillesse. Vous allez fêter Halloween demain soir, Yasmine?
Oui, j'en ai 4 enfants. J'ai les 2 petites là. Ils sont en train de se préparer pour demain.
Ah, super. Il y aura les bonbons, et etc., les déguisements, tout ce qui va bien.
Voilà, merci.
Eh bien, Yasmine, reste à l'écoute. On parle du nouvel an celte qui a quand même des liens avec Halloween dans quelques instants sur France Bleu. Merci beaucoup.
Merci, merci à vous. Merci France Bleu.
À bientôt. Merci, au revoir, Yasmine.
Au revoir. Welcome to the paradise.
Sun pours down upon your face. I wake up, feel heavenly. Out of bed, I start to taste the sound that the record play in your hands, in my hands, letting go of everything else. All I wanna know is this. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla.
Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento. Caramba al viento. Lento y contento. Caramba al viento.
Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas qué rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa a chinchorrear. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de bombal y unos tragos de sangría pa' que te suelte.
Como dice Fonsi, vamos a darle despacito.
808 Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
Welcome to paradise. C'est vrai que ça fait envie, hein. Un petit peu de soleil à nouveau sur France Bleu, l'été, la chaleur, le sable.
Eh ben non, c'est l'automne et il fait pas beau et c'est comme ça.
Merci. Très enthousiasmant. Alors c'était Pedro Capo, Farruca et Alicia Keys qui reprennent un tube qui s'appelle Calma. On était ravis de vous le faire entendre sur France Bleu.
Une heure en France. Denis Farrou, Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
Ça aussi, ça fait voyager. Hein. Tout le monde ne va pas fêter Halloween demain. En certains lieux de Bretagne, dans le Morbihan ou les Côtes-d'Armor par exemple, eh bien, on s'apprête à fêter Samhain, c'est le nouvel an celte.
Samhain marque le début et la fin de l'année celtique et annonce le début du temps noir ou du temps sombre.
Pour beaucoup, ça reste mystérieux. Alors on va aux nouvelles avec un spécialiste de la Bretagne. Bonjour Jean Carfentan.
Oui, bonjour.
Est-ce qu'il y a un lien entre le nouvel an celte et Halloween ?
Oui, tout à fait. En fait, Halloween, ça vient des, en particulier des Irlandais qui sont allés aux États-Unis et qui ont continué de fêter leur fête traditionnelle. Donc, en fait, Halloween, on le place le 31 octobre, mm-hmm. mais en fait, c'est basé au départ sur des mois lunaires, donc ce n'est jamais à la même date exactement.
Ah, donc, et là, cette année, ça tomberait quand ?
Ben, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Je sais qu'en 2015, ça tombait le 5, le 6 et le 7 novembre.
Mm-hmm. Pour voilà. Les histoires commerciales, il vaut mieux que ce soit toujours à la même date hein, pour les boutiques.
Oui,
hein.
Tout à fait.
Alors, Samhain, oui. Qu'est-ce qui diffère d'Halloween dans la façon de le fêter dans... Est-ce qu'on se déguise aussi ?
Disons que traditionnellement, en Bretagne, ça s'appelait Calagouanze. Et donc, on mettait une bûche dans l'âtre et on mm-hmm. mettait de la nourriture pour les défunts. Voilà.
D'accord.
Parce qu'en fait, ça représente le début de l'année celtique et ça représente aussi la communication avec les décédés.
Ah, donc il y a une histoire de fête des morts, etc. quand même. Hein.
Oui, tout à fait. Oui. Alors, en général, les fêtes chrétiennes reprennent les anciennes fêtes la plupart du temps. Quoi.
Ouais, c'est un peu comme la Toussaint, tous les saints, et le 2 novembre, les défunts, le 1er et le 2 novembre.
Voilà, ouais. Exactement.
Mais il y a des...
Mais en fait, traditionnellement, en fait, au départ, cette fête, en fait, on dit pas Samhain, on dit plutôt Samhain, parce que en irlandais, ça se prononce pas du tout comme ça s'écrit. C'est un problème.
Samhain, on dit alors.
Samhain.
D'accord.
Et donc, en fait, ça durait trois nuits, et c'était une fête un peu comme Pâques qui se déplaçait tous les ans. Ça n'était jamais à la même date.
Est-ce qu'il y a des citrouilles chez vous ? Enfin, je veux dire, chez Samhain.
Ah, ça, c'est venu avec les Américains, en fait, puisque les citrouilles, c'est un fruit qui vient des États-Unis. Et donc, c'était une manière de... c'était des betteraves avant ou des navets. Donc, c'est une manière de s'adapter localement aux États-Unis pour les Irlandais quand ils sont arrivés, en fait.
Et ça remonte à quand, on le sait, la fête de Samhain ?
Ah, on ne sait pas, non. En fait, ça remonte bien. Enfin, ce qu'on appelle les Celtes ne sont pas forcément des Celtes, mais c'est les hommes du Néolithique, en fait, qui déjà le fêtaient.
Ah oui, ça date pas d'hier.
Ben non, voilà. Et c'est une sorte. Par exemple, le calendrier de Coligny qui donne des choses assez précises. Vous pourrez vérifier sur l'article que j'avais écrit sur nhu.bzh. Je mets un lien. Le calendrier, il a été découvert en 1897 dans l'Ain par un agriculteur, Alphonse Roux. Et en fait, c'est un objet extraordinaire qu'on trouve au musée à Lyon. Mmh. Et qui donne c'est un calendrier gaulois et on voit qu'en fait c'était beaucoup plus complexe que notre calendrier romain grégorien qu'on utilise puisque il y avait une sorte d'harmonique entre la lune, donc le calendrier était fondé sur la lune Mais il fêtait aussi le soleil.
D'accord.
Solstice et équinoxe.
En tout cas, la fête de Samhain ou Samhain aura lieu notamment dans le parc de la Duchesse Anne à Saint-Quay-Portrieux, dans les Côtes-d'Armor. Avec une affiche qui nous a fait peur avec Frédéric. Des enfants avec une lanterne et une chèvre dans la nuit. Je pense que c'est une chèvre. Des arbres impressionnants et une créature fantomatique.
Et d'ailleurs, sachez que demain, on vous fera peur. Enfin, on essaiera avec une spéciale Halloween dans une heure en France. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce nouvel an celte, Jean Carfontan. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne journée et bon nouvel an donc du coup. Ça commence, nouvelle année à partir de demain soir, minuit. Nous continuons en musique sur France Bleu, on change de registre après l'Irlande. C'est Marc Lavoine et Christina Marocco. J'ai tout oublié, mais non, n'oubliez pas tout. J'espère que vous restez un petit peu de cette émission quand même, au moins cet après-midi. Allez, une heure en France ensemble, c'est jusqu'à 14h sur France Bleu.
À deux pas d'ici, j'habite, peut-être est-ce ailleurs. Je ne reconnais plus ma vie, parfois je me fais peur. Je vis dans un monde qui n'existe pas. Sans toi, je ne suis plus tout à fait moi.
À deux pas d'ici, j'ai égaré ce que j'étais. Mon nom ne me dit rien, ni la photo sur mes papiers. On peut bien m'appeler un tel ou un tel. Sans toi, peu importe qui m'appelle.
Quand on dit ton bonjour, je ne sais plus. Le parfum des beaux jours, je le sens plus. Comment fait-on l'amour si j'avais su j'ai tout oublié. Tu m'as oublié. Le mot doux de velours, je ne crie plus. Et le sens de l'humour, je l'ai perdu. Comment faire l'amour si j'avais su j'ai tout oublié. Quand tu m'as
que nous, hein, ce duo. Christina Marocco et Marc Lavoine sur France Bleu, j'ai tout oublié. Bah moi aussi, tiens, j'ai tout oublié. On a parlé de quoi aujourd'hui, Denis ?
Oh, l'été 1929, le maître nageur de la piscine Moniteur à Paris s'appelait Johnny Westmuller, qui n'était pas encore Tarzan à l'époque.
Une sacrée histoire que cette piscine Moniteur à Paris. Ensuite, on a parlé d'association.
Avec une Américaine qui a créé à Paris Espéro, qui initie des réfugiés à l'apiculture, et c'est un réfugié syrien qui enseigne.
Et on a terminé avec le nouvel an celte. Alors, est-ce qu'on a vraiment compris quand c'était le nouvel an celte ?
Ah, c'est entre aujourd'hui et dans trois jours, quoi. Bonne année, Frédéric.
Bonne année à vous.
Samhain en français ou Samhain en irlandais.
On revient demain avec, on vous a concocté une spéciale Halloween dans une heure en France. On espère vous faire peur.
On a invité une sorcière.
Allez, à demain.